cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Recevez gentiment chez vous. Alors, chez vous, depuis juste ce mois-ci, puisque vous êtes locataire du sublime théâtre de l'Athénée, pour, je crois, 2 ans. Vous avez un bail de 2 ans, c'est ça?
Oui, réparti sur 3 saisons. Donc, on a le temps de voir venir, ce qui est très agréable, parce que ça permet de développer vraiment un projet sur le long terme.
Alors, quelle est l'origine, justement, de ce projet? Et est-ce que vous pouvez nous livrer quelques secrets de ce qui va se passer pendant ces 2 années?
Oui, alors ce projet, il porte le nom de résidence. La résidence, c'est l'invitation que me fait le Théâtre de l'Athénée de développer un projet musical dans la durée, comme on le disait, sur plusieurs saisons, au travers de la programmation des concerts, et puis aussi en développant 2 axes importants, qui sont un axe pour les enfants du primaire, d'initiation à la musique. Alors plus que de l'initiation, c'est plutôt... une rencontre, leur proposer une rencontre avec la musique en plusieurs étapes, ça on en parlera peut-être plus tard. L'autre aspect, c'est l'aspect de création qui est important et qui est très présent parce que à chaque concert de cette programmation pendant ma résidence au Théâtre de l'Athénée, il y aura la création d'une œuvre qui aura été commandée pour cette occasion, pour chaque concert.
Alors, actualité, on va dire plus qu'intense, puisque parallèlement à cette résidence sort le 3e volume d'un projet Haydn Mozart que vous avez entamé il y a 2 ans déjà, je crois, le jeu de miroir. Est-ce que pour vous c'est un carburant un peu d'avoir toute cette activité, j'allais dire, la résidence, les concerts, les projets discographiques, l'enseignement aussi, je crois. Enfin, est-ce que c'est une nécessité ou est-ce que finalement vous êtes pris un peu dans une sorte de torrent qui vous plaît, j'imagine, mais vous contrôlez pas trop. Comment ça se passe un peu pour vous par rapport à ça?
Alors un torrent, j'aime bien cette idée, oui, mais c'est effectivement un torrent qui me plaît. J'aime qu'il y ait beaucoup d'activités, qu'il se passe beaucoup de choses, et puis c'est très très complémentaire. Le disque et le concert sont très complémentaires. Pouvoir sortir un disque au moment où un concert et un projet comme la résidence à l'Athénée démarre, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire parce que la construction n'est pas la même. La construction d'un disque et l'élaboration d'un concert ou d'un projet comme cette résidence ne se passe pas de la même façon. C'est pas la même gestation. Un enregistrement ne se passe pas de la même manière qu'un concert. Le disque reste, le concert ne reste pas. Voilà, donc sont plein d'éléments différents, mais extrêmement complémentaires. L'enseignement est aussi une part importante pour moi. Je suis assistante de Bruno Rigouteau au Conservatoire de Paris, au CNSM. Et c'est une façon, bien évidemment, de pouvoir transmettre, partager avec les élèves ce que j'apprends moi-même, ce que je découvre, ce que je vis sur la scène, à travers ces enregistrements, à travers un projet comme celui-ci. Et je pense que tous ces éléments s'enrichissent mutuellement et m'enrichissent également et enrichissent ce que je peux transmettre après au public.
C'est ce que j'allais vous demander, parce que c'est une expérience, une vie comme l'art et comme la musique, comme le piano, quelque chose de très intime, de très personnel. Avec toutes ces sortes de petites météorites qui arrivent de partout, comment on arrive à se retrouver et à faire avancer, j'allais dire, son identité musicale et répondre à ses propres interrogations artistiques ou ne pas y répondre parfois, enfin, je ne sais pas.
Alors, je pense que ce dont on parlait avant, c'est pas vraiment les météorites qui sont gênantes. Les météorites qui sont gênantes, c'est la rapidité, le rythme, etc. Il me semble qu'une chose très importante, c'est de garder la concentration.
Il y a des trucs pour ça, il y a des choses qui vous aident personnellement, des poches d'air, d'oxygène qui vous, de par ce côté tentant d'être éparpillé parce qu'on a plein d'activités, justement d'arriver à vous. Est-ce que c'est un travail au quotidien?
Alors c'est un travail au quotidien, c'est une exigence aussi pendant le travail de l'instrument lui-même. Et puis c'est aussi malgré tout une forme d'hygiène de vie qui est comparable avec celle des sportifs, c'est-à-dire qu'il faut garder un axe et. résister à la tentation de se disperser et puis voilà, faire attention à garder bien du temps pour le maximum de temps pour travailler. C'est une balance à trouver entre l'ouverture sur l'extérieur et puis la concentration sur le sujet lui-même de la musique, de l'instrument qu'on a vraiment besoin de travailler quotidiennement beaucoup pour préparer les œuvres, pour préparer les concerts, préparer les enregistrements, préparer les... Mais en même temps, le fait d'avoir des projets comme ça complémentaires fait que, d'une certaine façon, tout se retrouve et se recoupe. C'était un élément important pour moi dans ce projet de résidence au Théâtre de l'Athénée. C'est que finalement, les commandes et les enfants se rejoignent par l'ouverture à l'avenir, jouer de la musique d'aujourd'hui, jouer un compositeur comme Thierry Esquèche, comme Thierry Pécou et comme ceux qui participeront à l'avenir lors de cette résidence, c'est faire vivre la musique pour aujourd'hui, pour demain, amener les enfants au concert, parce qu'ils vont venir au Théâtre de l'Athénée écouter un concert pour eux sur leur temps scolaire, qui aura été préparé, puisque je suis déjà allée dans les écoles pour rencontrer les enfants avec un piano. Grâce au partenariat d'Yamaha, on a pu avoir un beau piano sur place pour que je leur joue des extraits, qu'ils se préparent vraiment à ce concert qu'ils vont venir écouter le 26 janvier dans l'après-midi. Et puis, il y a eu un réel dialogue sur des questions, des rebondissements de questions qui étaient vraiment assez enthousiasmants. Voilà, c'est aussi l'avenir, mais en même temps tout se rejoint. La musique, elle est multiple. On a au piano un répertoire très riche. Pouvoir donner dans un concert comme le récital que je vais donner le 26 janvier Haydn, Mozart, Esquèche, Liszt, en sachant que des enfants seront là, en sachant que Thierry Esquèche a aussi écrit une pièce qui va être jouée pour la première fois à l'Athénée, je trouve que tout ça est très très lié.
Vous avez parlé de sportif un peu, d'hygiène de vie, un peu comme presque on rentre en religion, presque d'une certaine manière, par rapport à tout ça. Est-ce qu'il y a eu un moment donné précis dans votre vie où vous vous rendiez compte que vous basculiez justement dans ce choix? Ou est-ce que ça a toujours été en vous? Ou est-ce que finalement vous n'êtes jamais rendu compte à quel moment vous avez vraiment basculé, en sachant que la machine était lancée et qu'à première vue, elle n'allait pas s'arrêter?
Alors, c'est une bonne question. En fait, il y a plein de réponses à vos questions. Cette exigence de l'instrument et ce travail quotidien, il est là depuis toujours. Parce que les musiciens qui deviennent des musiciens professionnels, dès leur petite enfance, travaillent leur instrument tous les jours et de plus en plus et beaucoup. Et l'hygiène de vie dont on parlait, alors elle n'est pas aussi scrupuleuse que pour les sportifs, et puis c'est par période, etc. Mais elle est là quand même dès le départ. La concentration aussi, parce que dès le départ, dès qu'on joue d'un instrument, ben, il faut vraiment être concentré sur ce que l'on fait. Alors en revanche, le sentiment d'avoir basculé un jour, pas vraiment. Je pense que la vie de musicien, elle se construit au jour le jour, que c'est jamais fini, qu'on ne sait jamais ce qui nous attend. Basculer, pas vraiment. Je pense qu'il y a eu un choix qui a dû être fait par mes parents, surtout pour savoir quelle orientation d'études. Moi, j'étais relativement jeune. Enfin, j'avais, au moment où vraiment les choix se sont faits, j'avais 13 ans, 13-14 ans. Donc,
vous ne posiez pas trop la question,
finalement. Je ne me posais pas la question, je fonçais. Et puis voilà. Ou je me posais d'autres questions, mais en tout cas, ce n'est pas moi qui avais la responsabilité du choix. Donc, c'est plutôt, je pense, pour mes parents que ça a été difficile. Maintenant, basculer, non. Je dirais que je vis une belle période de foisonnement, de développement des projets. J'ai l'impression que certaines choses étaient en moi depuis longtemps et sortent maintenant.
Je vais vous demander comment justement on réussit par rapport aux années d'apprentissage. On sait que c'est, là on parle de sportif, mais c'est aussi un peu un peu la même chose, de rencontres, de maîtres, de musique du passé, d'enregistrement, etc. Comment on arrive, j'allais dire, un peu à jouer des coudes et à ce que vous dites, à faire sortir soit son langage, ça. Est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'il y a des moments où vous avez l'impression que là, soudainement, il y a quelque chose que vous venez de faire et qui est vraiment, j'imagine, mais je parle plutôt au début. C'est-à-dire à quel moment on n'est pas juste un enfant prodige de l'instrument et on arrive vraiment à s'affirmer et à avoir une voix personnelle.
Alors, je pense qu'il y a deux aspects des choses. Il y a d'abord, bien sûr, le travail personnel, le travail à l'instrument, le travail qu'on peut faire avec des professeurs, comme ça a été le cas pour moi. J'ai eu des professeurs extraordinaires qui m'ont beaucoup appris. Et puis après, la recherche personnelle sur les choix qu'on fait sur une œuvre, le choix de répertoire, la recherche, le travail, l'approfondissement des œuvres, ça. Et puis, il y a aussi les rencontres. Il y a les chances qui m'ont été données de pouvoir enregistrer des disques, la fidélité de certains organisateurs qui m'ont invité puis réinvité et qui m'ont permis comme ça de pouvoir développer aussi à travers ce renouvellement des concerts une présence sur scène et puis une présence comme ici cette résidence au Théâtre de l'Athénée grâce à Patrice Martinel, directeur de l'Athénée, qui est aussi une immense chance de pouvoir dans la préparation de ce projet me poser les questions de savoir ce que j'avais envie de montrer au public, qui j'étais d'un point de vue artistique aussi, ce qui finalement quel choix je faisais à l'intérieur de toutes les possibilités que je pouvais saisir. Enfin, des tas de questions se sont posées quand il y a eu l'élaboration de ce projet. Et grâce à Patrice Martinet, je pense avoir trouvé des réponses dans les axes qui sont donnés, à la fois pour les enfants et pour la création. Deux axes qui sont très importants pour moi.
Parler de répertoire, et ce qui est intéressant chez vous justement, c'est que le répertoire est assez large, du romantique, des compositeurs contemporains, là ce projet sur plusieurs années, Haydn Mozart, c'est aussi quelque chose pour vous d'essentiel justement de garder une vision, un grand angle, est-ce que c'est par période, vous avez des phases, comment ça fonctionne justement ce répertoire?
C'est un peu tout en même temps, c'est essentiel, ça c'est vrai, c'est aussi par période et aussi... par nécessité de besoin de contraste et de contraste de répertoire. Passer une journée à travailler une sonate de Haydn dans la précision, le cisaillement, le détail, la recherche de toucher, etc. Et puis déchiffrer une sonate de Prokofiev. C'est un enrichissement mutuel et en même temps un oxygène extraordinaire.
Alors si on revient justement sur ce projet Haydn Mozart, Est-ce qu'il y avait une volonté aussi de proposer quelque chose de différent, j'allais dire, en termes de... C'est un mot peut-être un peu laid de dire produit, mais en termes de projet, on va dire plutôt, plutôt que de, effectivement, d'avoir... Est-ce que pour vous, c'est aussi important de se dire, ben voilà, certaines œuvres ont été enregistrées, surenregistrées, même si ce n'est pas le cas pour certaines que vous avez, avez choisies. Est-ce que c'est aussi important pour vous la manière dont vous présentez au public le répertoire que vous sélectionnez?
Alors, je dirais que c'est important, sans doute, de porter un regard personnel. Chercher à faire quelque chose de différent pour faire quelque chose de différent, je ne pense pas que ce soit un but en soi. Non. En revanche, ce projet, il est né de cette idée, de cette question qui était pourquoi est-ce que Mozart est connu du grand public et pourquoi est-ce qu'Haydn ne l'est pas autant que Mozart. Et essayer de trouver à travers les sonates, donc à travers les partitions, des éclairages qui pourraient creuser cette question, éventuellement trouver des réponses, et en tout cas montrer par un éclairage en quoi ces deux compositeurs sont proches. Et donc les thèmes se sont dégagés vraiment par les œuvres. Après, ce qui était intéressant, c'est que les thèmes qui se dégageaient étaient d'après Marc Vignal, avec qui j'ai travaillé pour l'aspect musicologique, était justifié musicologiquement, à part un thème que j'avais dégagé et qui semblait pas... J'avais envie de faire un thème sur les femmes. Et il me dit, écoutez, non, ça me paraît pas... Dans le cas présent, historiquement, musicologiquement, ça se justifie pas vraiment. Donc on a laissé tomber ce thème-là. Mais ce qui m'a donné confiance et envie de poursuivre ce projet et le mener jusqu'au bout, c'est que ce que je ressentais instinctivement, musicalement, dans un rapproche... Enfin, voilà, les œuvres que je sentais proches instinctivement et musicalement se trouvaient également avec un point commun musicologique, historique et une logique dans leur rapprochement. Et je me suis dit, bon, si l'instinct et la raison se rejoignent, c'est qu'il y a peut-être une vérité là-dedans. Et donc, voilà, on a développé ce projet.
Vous avez parlé au début de notre entretien des spécificités de la scène, du concert, de l'enregistrement, de ce qui reste, comme vous avez dit. Quel rapport vous avez justement au disque? Alors, avant de parler de vos disques, de vos choix, pourquoi j'enregistre ci et pas ça, pourquoi à tel moment, dans votre formation, quel rapport vous avez avec les disques? Est-ce que vous étiez une sorte de gloutonne à avoir des œuvres en plusieurs exemples, plusieurs interprétations? Est-ce que vous aviez des musiciens? Vous vouliez vraiment découvrir... Quel rapport vous avez avec le disque?
J'aime l'objet. En fait, j'ai besoin... Je regrette un peu que l'objet disque disparaisse, parce que je trouve qu'avoir un disque chez soi, c'est comme un livre. On peut l'ouvrir, le fermer, le garder, le voir dans sa bibliothèque, le laisser puis le retrouver. Je trouve qu'un disque, c'est la même chose. Sinon, c'est un peu tout. Il y a des musiciens que j'admire et que j'aime beaucoup énormément, donc j'essaie d'avoir tous leurs enregistrements, tous les enregistrements qu'ils ont faits. Il y a des œuvres que j'ai en plein d'exemplaires. Il y a des trous aussi, des choses qui me manquent vraiment, mais bon, la vie, j'espère, n'est pas finie. Et puis j'aime aussi écouter, alors j'écoute principalement du classique, mais d'autres choses que du piano, des opéras, des symphonies. Et puis je pense que pour tout un chacun, la relation entre ce qu'on vit et ce qu'on écoute, et puis pour les musiciens professionnels, ce qu'on vit et ce qu'on travaille, bien sûr, est très 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 lié. Et donc quand on voit une œuvre qu'on a écoutée plus particulièrement à un moment de sa vie, j'ai l'impression que la bibliothèque de disques, c'est un peu comme le reflet de période de vie. Alors un reflet secret, bien sûr, mais je sais que si je réécoute telle œuvre, ça me fera penser à telle période. Voilà, je pense que c'est la même chose pour chacun. Et c'est pour ça que je trouve que le disque objet est important aussi, parce que ça laisse une trace sans être du tout passéiste. Je pense que c'est un témoignage d'un parcours de vie.
Vous avez parlé de certains musiciens, vous aviez pas l'intégrale mais presque. Quels sont ces musiciens?
Daniel Barenboim, que j'ai eu la chance de rencontrer, avec qui j'ai pu jouer et travailler, et pour qui j'ai une admiration sans limite. Bon, après, il y en a, pour les pianistes, il y en a beaucoup d'autres.
J'imagine qu'il y a des phases aussi, en fonction de votre éducation musicale.
Oui, mais alors peut-être. Lui, justement, a l'air de traverser de nombreuses phases. Voilà, après, bon, il y a des chefs d'orchestre. Il y a Claudio Abbado avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin. C'était vraiment une association qui me fascinait. Je ne veux pas être restrictive, il y en a beaucoup d'autres. Il y a des quatuors à cordes, il y a...
Des découvertes plus récentes? Musiciens que vous connaissiez peu
On parlait
mal.
Tout à l'heure du quatuor ébène avant de commencer cette émission. J'aime beaucoup le quatuor ébène. C'est vraiment un quatuor formidable. Des révélations sinon, des découvertes plus récentes. La musique de Thierry Pécou, qui est une rencontre musicale plus récente et que je suis contente de développer, notamment ici.
Ou même des musiciens passés que vous connaissiez peu ou... Et vous avez un peu redécouvert.
Oui, alors ça arrive régulièrement. Clara Askill, notamment, dont j'avais écouté des enregistrements il y a longtemps et que j'ai vraiment redécouverte avec fascination. Alors ça aussi, c'est une chance de la vie, c'est-à-dire qu'on évolue, on n'entend pas les mêmes choses. Avec le temps qui passe, on apprend à écouter aussi, on découvre. Comme auditeur aussi, de nombreuses choses et réécouter les mêmes œuvres, même si c'est dans les mêmes interprétations, on les entend différemment.
Et alors, les disques, mais les vôtres cette fois-ci, la musique qui va rester. Donc, vous avez un rapport assez intense avec le disque, donc j'imagine qu'il y a aussi une réflexion pour vous quand vous décidez de choisir quelle œuvre, à quel moment. Comment justement vous traduisez ça? Est-ce qu'il y a des choses que vous permettez, des choses que vous interdisez? Comment ça fonctionne? Quel rapport vous avez avec vos propres enregistrements?
Alors ça a sans doute évolué aussi. Le premier enregistrement, c'est... le tout premier d'ailleurs n'est pas très connu. C'était un enregistrement qui m'a justement bien servi de première expérience. C'était très bien. C'est un disque qui a plutôt bien fonctionné, un disque de musique de chambre, mais c'était plutôt une première expérience. C'était très bien. Et le premier disque qui a marqué, c'était un disque pour piano seul. C'était les études d'exécution transcendante de Liszt. C'était la première... Le premier disque qui allait rester, le premier témoignage, la première sortie pour moi vraiment de façon qui éclatante et qui restait. Donc je ne l'abordais pas de la même façon que les projets que je développe maintenant. C'était une sorte de je ne me rendais même pas compte de ce que ça représentait d'ailleurs, l'Himalaya, mais c'était des œuvres pour lesquelles j'avais une grande fascination et je suis allée
Est-ce que vous réécoutez vos disques ou vous préférez pas trop finalement?
Ça dépend, plus ils sont anciens, plus j'aime les réécouter, parce qu'il y a une distance qui permet d'être un peu plus calme vis-à-vis de son écoute. Ce qui est plus difficile, c'est les enregistrements récents ou semi-récents, où là, on se dit « Ah, quand même, j'ai évolué, mais je peux plus rien faire. » Quand il y a une grande distance, c'est plutôt plus facile à réécouter. Ça dépend de chaque enregistrement. Donc, on disait que le premier enregistrement, on ne l'aborde pas de la même façon. C'est vrai que maintenant, les questions que je me pose sont pas les mêmes. Je sais qu'il y a déjà des disques derrière. Je pense que c'est une façon plus... peut-être plus personnel et plus de plus en plus le reflet de ce que je suis.
Thank you. Vous avez parlé de l'importance aussi des rencontres. Vous en avez cité quelques-unes, Barenboim, Thierry Skeich, je vous ai rencontré, vous avez Guylaine Kremer, enfin bon, il y a une liste quand même assez, assez impressionnante. Ça aussi, j'imagine que c'est quelque chose qui est un carburant, un fuel, un oxygène essentiel pour vous, pour avancer.
Ah oui, vraiment essentiel. Et il y a aussi Louis Langré, qui est un magnifique chef d'orchestre, avec qui on a pu vraiment donner de nombreux concerts, faire plusieurs enregistrements. C'est plus qu'un carburant, c'est l'oxygène. Je vous parlais d'oxygène, c'est tout à fait ça. C'est une régénérescence, c'est un échange, un dialogue. Et puis ça donne aussi la foi en l'avenir, en ce qu'on peut développer, ça donne des idées de projet, c'est l'énergie qui est là. Les rencontres, c'est une des choses les plus importantes.
Et jouer des contemporains et pouvoir même discuter avec eux, c'est quelque chose aussi, j'imagine, d'à part. Je crois qu'il y a même du Tilleux, je crois que vous avez rencontré du Tilleux également.
Carter aussi.
Donc, quel est aussi cet aspect, j'allais dire, à part encore et différent de votre travail?
C'est essentiel. Je pense qu'il y a à la fois, évidemment, le fait de pouvoir les rencontrer et de pouvoir leur poser des questions sur ce qu'ils ont écrit, savoir ce qu'ils ont imaginé, ce qu'ils souhaitent entendre, ce qu'ils voudraient qu'on modifie. Travailler avec eux, c'est une chance. Et nous, si on pouvait le faire avec Lise, si on pouvait le
faire avec Lise. C'est ce que j'allais vous demander, si Mozart et Haydn étaient là pour le
rêve. Ce serait très impressionnant aussi, comme ça l'est pour Dutilleux, Carter, Gubaidulina, Eskech, Tepeku, etc. C'est toujours impressionnant, c'est très impressionnant de jouer devant un compositeur. Mais en même temps, il y a aussi l'aspect humain qui est très important. Le fait de pouvoir connaître cette personne, vivre les mêmes événements que cette personne, puisqu'on vit à la même époque. Cette conscience que la musique naît en même temps que nous sommes là, qu'on peut rencontrer les personnes, les connaître humainement, travailler avec eux, c'est assez global et très 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 important. Parce que du coup, c'est pas seulement intellectuel, c'est la vie, c'est notre vie, c'est la leur, c'est l'avenir, c'est tout devient organique.
Parce que c'est l'autre plateau de la balance de dire qu'on joue de la musique de gens entre guillemets morts, même si la musique est intemporelle, mais finalement elle a été jouée des milliards de fois. Et...
Oui, je pense que c'est un aspect très important pour la musique classique et peut-être pas toujours perçu à sa juste valeur par le public, le grand public, qui les personnes qui n'osent pas trop approcher la musique classique en se disant que les compositeurs sont tous morts, que c'est pas la mode, que c'est pas pour eux, que tous les interprètes jouent les mêmes œuvres et qu'on voit pas pourquoi et qu'il y a pas de création, etc. Je pense que la musique classique, c'est vraiment tout le contraire. L'autre jour, je jouais une sonate de Haydn et à la fin de cette sonate je me disais quand même c'est fou quoi, cette musique qui est si vivante, qui est si drôle, qui est si présente, qui est si vieille et pourtant elle peut parler à chacun. Alors certes l'interprétation est peut-être plus difficile à percevoir parce qu'il faut quand même exercer un peu son oreille pour entendre que telle sonorité de piano n'est pas la même qu'un autre interprète, que telle façon d'aborder l'œuvre d'un tel interprète ne sera pas la même qu'un autre interprète. Donc ça, c'est sans doute un peu exigeant pour l'auditeur, pour le public. Mais si on accède à ça, si on ouvre cette porte, je crois que c'est une richesse.
Mais ce qui est intéressant, justement, c'est que si vous jouez, vous avez, que ce soit Marc Vignal ou un enfant... qui viendra ici à l'Athénée devant vous, vous parlerez finalement aux deux différemment, mais
Avec la même langue, avec le même langage, avec la même œuvre, avec la même personnalité. Je pense que c'est très basiquement et de façon très très simple, la musique n'a pas de langue. Enfin, elle a sa propre langue, mais qui est universelle. Il ne faut pas oublier ça, je pense que c'est vraiment une chance incroyable et une possibilité pour la partager. Et à la fois en tant que musicien, mais en tant que public, je pense qu'il ne faut pas oublier ça, qu'il n'y a pas de frontières, qu'il n'y a pas de barrière et qu'il faut venir au concert sans avoir peur de ce qui va se passer. On peut aimer, ne pas aimer, être touché ou un peu moins. Les œuvres sont très différentes en plus. On peut être... J'ai une expérience d'un concert comme ça où je jouais du Schumann et du Dutilleux. Il y avait un groupe d'étudiants, de jeunes étudiants, je ne sais pas, enfin, où ils étaient peut-être lycéens, étudiants, je ne me souviens plus très bien, mais il devait avoir une petite vingtaine d'années. Et ils sont venus me voir en me disant oh, c'était formidable, super, comme c'était bien. Bon, je dis merci beaucoup. Et dites-moi, vous avez préféré plutôt le Schumann ou plutôt Dutilleux? Oh, Dutilleux, c'était super. Il y avait des rythmes qu'on reconnaissait. On a l'impression d'entendre, je ne sais plus, je me souviens plus ce qu'ils citaient. Mais voilà, on a des surprises aussi. Dutilleux, parfois, est plus proche que Schumann. Et quelqu'un d'autre du public vous dira oh là là, j'étais beaucoup plus proche de Schumann que Dutilleux. Et donc, et tant mieux. Je crois que c'est vraiment la chance de la musique, justement.
Transmettre justement un public jeune, c'est aussi, ça fait partie pour vous justement d'essayer de résoudre ce problème, cette problématique de dire c'est dommage, une musique qui finalement peut être si moderne pourrait parler à plein de gens, mais...
Oui, alors je pense que c'est une question très importante effectivement, qu'on a un rôle, chaque musicien a un rôle pour penser au renouvellement du public, non seulement au renouvellement mais à la présence... À la présence de toute personne au concert qui est pas de barrière. Je trouve que c'est cette idée de barrière, de peur, de témoignage. J'ai des témoignages de certains enfants parce que je développe beaucoup de choses avec les enfants, avec le jeune. Enfin, j'essaye vraiment de développer ça avec les enfants, les écoles, même les lycées, les collèges. C'est cette peur de reconnaître, d'afficher, d'affirmer qu'on aime la musique classique. Déjà ça, j'ai accompagné une classe qui allait écouter un très beau spectacle fait par l'Orchestre de Paris qui s'appelait Les Poupées Russes, avec une adaptation d'un conte russe, avec des extraits magnifiques, un tableau d'une exposition, enfin, des œuvres très très belles pour orchestre qui illustraient ce conte. Donc il n'y avait pas l'aspect de création, mais d'adaptation, et c'était vraiment beau. Les enfants étaient captivés, ils étaient attentifs, ils étaient sur leur visage, on voyait qu'ils étaient vraiment dans le cœur de ce qui se passait musicalement et sur scène. Et à leur sortie, je leur dis « Alors, ça vous a plu ?»« Oui, ça nous a plu, mais on n'aime pas la musique classique. » Je me suis dit « Mais c'est pas vrai, quoi. C'est ça, il faut que ça change. » S'ils n'avaient pas aimé, s'ils n'avaient pas écouté le spectacle, s'ils m'avaient dit « Non, vraiment, j'ai pas aimé la musique, j'ai pas aimé l'orchestre, j'aime pas le son de l'orchestre, je peux vraiment dire que j'aime pas la musique classique », ok, pas de problème, je suis d'accord avec ça. Mais les voir captivés, fascinés, aimés, sortir tout gai, et puis me dire « Oui, j'ai bien aimé, oui, enfin, j'aime pas la musique classique », simplement parce qu'il voulait pas que son voisin ou son copain puisse penser qu'il aimait bien la musique classique, ça met en rogne, ça met en colère, parce que c'est bête et que c'est dommage, c'est dommage, et c'est se couper de beaucoup de belles choses.
Thank you.
portez sur l'enseignement musical en France aujourd'hui ?
Je pense qu'il n'est pas assez présent dans l'école, dans les écoles, notamment les écoles primaires. Je pense qu'il y a une volonté de la rendre plus présente, mais c'est pas toujours facile. Bon, il y a des programmes à respecter. Je regrette qu'il n'y ait pas plus souvent en France des programmes comme il y a en Allemagne. Enfin, j'ai vu qu'il y avait certaines choses qui se développaient, mais en Allemagne, il y a des choses extraordinaires, un projet extraordinaire qui s'appelle, je crois, l'orchestre à l'école, quelque chose comme ça. Et donc, en début d'année, je ne sais pas exactement à partir de quelle classe ça démarre, mais je crois vraiment assez tôt, vers 9-10 ans, on donne le choix aux enfants d'un instrument de l'orchestre, et on constitue un orchestre par classe. Un orchestre de chambre, un orchestre. Et au long de l'année, cet orchestre se développe. Les enfants apprennent peu à peu à jouer l'instrument. Il y a des partitions qui sont adaptées à leur niveau. Et ils jouent tous ensemble. Et à la fin de l'année, ils font un spectacle d'orchestre. Et chaque année, ce projet est renouvelé, etc. Et je pense que c'est essentiel. Je pense que la musique doit être une matière apprise. Alors, c'est pas évident parce qu'il faut un instrument. Enfin, ça représente plein d'étapes compliquées d'un point de vue logistique, matériel. Concret, il faut que l'enseignement soit adapté, il faut qu'il puisse y avoir des professeurs de musique, ce qui n'est pas non plus évident. Enfin, un enseignant d'école maternelle n'est pas forcément formé à enseigner la musique, mais je pense que c'est vraiment une chose essentielle. Après, toute leur vie, les enfants auront cette chance d'avoir une intimité avec un instrument, comme leur meilleur ami à qui ils peuvent raconter des secrets. Quand on joue d'un instrument, on a vraiment cette relation de pouvoir se confier à l'instrument à travers la musique. Et je pense qu'offrir cette chance-là aux enfants qui plus tard seront des adultes, qui pourront, avec leur instrument, rejeter dans leur instrument leur colère de la journée, leur frustration, ou alors leur joie et leur découverte, c'est vraiment un aspect important pour la vie.
Reprendre la métaphore de sportif tout à l'heure sur la mode de vie. Pour les sportifs, il y a ce qu'on appelle la compétition. Est-ce que vous avez l'impression que, aussi dans le monde de la musique, il y a aussi de la compétition.
Oui, mais je pense qu'il y en a partout dans la vie. Je pense que dans tous les domaines, il y a une forme de compétition. Je pense que ça ne doit pas être Enfin, on parlait tout à l'heure de but en soi pour faire des projets différents. Je pense que la compétition, elle existe parce que malheureusement, il n'y a pas une infinité de nombre de concerts. Elle existe, mais je pense qu'elle est là malgré nous, ou parfois contre nous, ou pour nous, je ne sais pas. Mais je me souviens d'un ami, je préparais un concours international, et je disais à un ami, oh là là, j'ai peur, ils sont tous très forts, bon, toutes les questions qu'on se pose. Et il m'a dit, écoute, ne pense pas à ça, de toute façon, les candidats, que ce soit toi ou les autres, s'éliminent d'eux-mêmes. Donc toi, fais le mieux que tu peux, joue le mieux possible, et puis voilà, si tu commences à te poser ce genre de questions, tu n'avanceras pas. Donc fais le maximum, fais le mieux, et si t'es meilleur qu'eux, tu passeras, et il y en a qui s'élimineront, et d'autres qui ne s'élimineront pas. Et je pense que dans la vie, je n'ai pas spécialement envie d'être méchante, et ni l'intention de l'être, donc je ne me pose pas trop ces genres de questions, et j'essaye d'avancer, de faire des projets, de défendre les projets, et après, on verra ce que l'avenir me réserve.
Alors, pour être plutôt gentil, dans toutes les rencontres, on a cité quelques-uns tout à l'heure, qu'est-ce que, citer comme ça quelques noms, et je voudrais savoir un peu ce que vous avez, avec le recul, gardé musicalement, même si c'est des rencontres humaines, évidemment, à chaque fois, mais musicalement, de personnes comme Barenboim, par exemple. En plus, j'imagine que ce sont des rencontres, ça reste en vous et ça grandit. Exactement. Donc il y a des choses parfois, des révélations que vous avez plus tard, parfois peut-être.
Exactement. En fait, ce sont des clés, des choses qui ressortent, qui rejaillissent. Parfois, alors beaucoup sur le son, sur le toucher, sur le... et aussi sur l'extrême proximité, complexité et indissociable, enfin l'aspect indissociable de la technique et de l'interprétation. C'est-à-dire que, alors chez lui, c'est absolument fascinant parce que c'est poussé à un degré extrême. Le geste, donc, qui peut être un aspect technique, le geste est relié bien sûr au désir d'un son, enfin à la volonté de sortir un son, enfin d'émettre un son. Mais chez lui, tout est relié, c'est-à-dire qu'il sait précisément que si sur telle note, de telle phrase, de tel passage, de tel mouvement, de telle sonate, Voilà, il va choisir le geste qui ira avec... Voilà, il part du détail, en fait, pour aller à l'architecture générale. Un détail d'une note, comme je disais, à un moment précis d'un passage, d'un mouvement, d'une sonate, rentrera dans l'architecture de la sonate en général. Quand il commence une œuvre, il sait exactement comment il va construire tout l'ensemble, jusqu'à la dernière note, non seulement du mouvement, mais de la sonate. Ou du concerto. Voilà. Et ça, c'est vraiment très impressionnant. Pour moi, c'est aussi impressionnant qu'on peut comparer ça à Mozart, qui écrivait les parties séparées d'une symphonie avant d'écrire la partie générale de l'orchestre. C'est-à-dire qu'il savait exactement ce que jouaient les deuxièmes violons, les violoncelles, les altos, etc., quand il écrivait la partie de premier violon. Barenboim, c'est l'interprétation, c'est pas la création, mais c'est poussé à ce degré-là. C'est-à-dire que les plus petits éléments sont inscrits dans des moyens éléments qui eux-mêmes forment une grande architecture. Voilà, bon, maintenant, après, il faut y arriver. Mais ce qu'il transmet, c'est ça aussi. C'est ça, l'immense exigence et le fait que la musique, pour lui, la scène, c'est pareil que les coulisses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontière entre la scène et les coulisses. Il n'y a pas de frontière. Il sort des coulisses, il est capable de parler en 10 langues. Enfin, 10 langues peut-être pas, mais 7, je crois. Voilà, il est passé d'une à l'autre. On a répété ensemble en vue de pour des concerts qu'on a donnés avec le deuxième concerto de Liszt. Au bout de la deuxième répétition, il me dit « Ah, bah, ça fait 20 ans que j'ai pas joué, mais là, à force de t'entendre jouer, c'est bon, là, je pense que je pourrais le jouer. » Voilà.
C'est calme.
Voilà, c'est des choses qu'on peut pas imaginer, et c'est c'est un enrichissement pour toujours. D'autres rencontres, je sais pas, des exemples, Guidon Kremer... On travaillait une heure et puis il me dit, une sonate de Beethoven, et puis il me dit bon, là, d'accord, il s'agit de couleurs. Bon, très bien. Mais quelle couleur? Alors, un jaune citron, un jaune poussin, un jaune terre, un jaune égyptien, un jaune italien, un jaune. Voilà, il me cite 30 jaunes. Et donc là aussi, c'était une révélation du fait que ce genre de questions, il se les pose surtout. Et là où moi je me demande, bon, c'est plutôt jaune ou plutôt rouge, lui se demande quelle gamme de jaune ça va être. Bon, alors maintenant j'essaie de penser à ça aussi. Voilà, j'ai des éclairages. Louis Langré, avec qui j'ai beaucoup travaillé, pose souvent une question qui est pour dire quoi? Tu joues ça, tu mets telle émotion, mais pour dire quoi? Voilà, le sens de ce qu'on... Le sens de ce qu'on fait en musique, le sens de ce qu'on raconte. Voilà, c'est des petits exemples comme ça qui me viennent à l'esprit, mais qui sont importants.
André Steyer aussi.
André Steyer, alors là, voilà, encore un exemple qui me vient immédiatement à l'esprit. On avait eu une belle expérience, c'est qu'en Italie, j'étais lauréate d'une fondation pour les jeunes pianistes, enfin les pianistes vraiment sélectionnés, il y en a 5 par an à peu près. Et on a été invité par une riche italienne qui avait un hôtel particulier, une collection d'instruments de piano allant du tympanon à l'épinette, au clavecin, au pianoforte, au premier pianoforte. Enfin, il y avait 5 pianofortés, il y avait 5 clavecins d'époques différentes, des factures différentes. Et je me souviens d'une chose très belle qu'il a dite. Il a dit: on parle de piano d'époque, mais ça veut rien dire. En fait, c'est pas une question de piano d'époque, c'est de savoir pour quel instrument on a écrit telle ou telle sonate. D'une sonate à l'autre, les instruments changeaient. Il y avait une touche en plus en haut, une touche en plus en bas, la longueur des cordes changeait, le son était différent, le traitement et les possibilités de la pédale étaient différentes. Et du coup, en fait, les compositeurs ont écrit, en fonction de ce que leur offrait aussi l'instrument, des nouveautés de l'instrument. Donc il y avait un aspect nouveau... une comparaison un peu bête qui me vient à l'esprit, mais gadget, en fait, voilà, le nouveau téléphone portable qui change, les mails qu'on envoie directement, etc. Là, c'était un peu ça, c'était chouette. Alors, ça joue plus fort, donc on va mettre des nuances qui sont plus tumultueuses. Il y a plus d'étendue sur le clavier, donc je peux rajouter des notes, je peux aller plus loin dans l'étendue du clavier, jouer des notes plus graves, des notes plus aiguës, écrire avec des notes plus graves, des notes plus aiguës. Et tout ça faisait partie d'un jeu de construction aussi musicale. Voilà, donc ça, c'était une expérience vraiment, vraiment très, très forte. Je me souviens notamment d'une comparaison entre un forte sur l'épinette et sur le clavecin, les clavecins les plus avancés, où finalement, on a l'impression que le forte sur le clavecin était absolument cataclysmique par rapport au forte sur l'épinette. Et quand on joue après sur un piano, le forte très fort sur un clavecin est quand même assez relatif.
Menuhin, je crois que vous avez rencontré.
Ah oui, Menuhin. Oui, c'était une belle rencontre. Il avait un regard absolument incroyable, très, très droit, avec ses yeux bleus. Lui m'avait surtout parlé du son, effectivement. Il m'avait fait un joli compliment sur mon son. Que par pudeur, je ne révélerai pas.
On pourra revenir sur cette riche italienne et tous ces instruments. Mmh. La question des instruments anciens, instruments modernes, sont des questions qui vous ont empêché de dormir? Pas vraiment. Vous avez rapidement répondu personnellement à toutes ces questions?
Pas vraiment empêché de dormir, parce que j'adore le piano moderne. Et que... Il n'y a rien à y faire, quoi. C'est le son que j'aime cet instrument. Par contre, alors, ce qui est un peu pas contradictoire, mais un peu troublant, c'est que quand on joue du Schumann, quand on travaille du Schumann sur piano forte, on se pose plein de questions, on cherche plein de choses, c'est compliqué, etc. Et puis, on joue sur piano forte, sur piano moderne, c'est compliqué, etc. Après ça, on joue le même passage sur piano forte, et il y a des évidences qui se révèlent, des choses de phrasé qui sortent toutes seules. Des choses techniques qui sont plus accessibles. La même expérience m'est arrivée la semaine dernière sur la première partie de Bach. Le fait, j'ai eu l'occasion de pouvoir la jouer sur un clavecin pour moi, hein, pour travailler, pour réfléchir. Et voilà, c'était d'un seul coup, les ornements devenaient beaucoup plus évidents. La pulsation, les dynamiques, tout ça entrait dans un ordre de logique, d'évidence et de logique beaucoup plus immédiate. Alors je pense que dans certains cas, c'est beaucoup plus compliqué sur piano moderne, on se complique la vie. En revanche, après, c'est une question d'affinité, de goût, de sonorité. Et voilà, j'adore le son du piano moderne, qui est d'une richesse harmonique extraordinaire, d'une beauté, d'une... voilà, une infinité de dynamique.
Je peux pas vous justifier.
Non, mais... Non, j'essaye de me l'expliquer à moi-même pourquoi parfois c'est... je me complique la vie.
Alors on a abordé à peu près, je pense, tous les aspects, mais il y en a un qu'on n'a pas abordé, c'est la composition. Est-ce que c'est quelque chose, l'écriture, est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous pensez ou pas du tout?
Ça va être très rapide, j'en suis incapable. Incapable pour un niveau intéressant et raconter des choses intéressantes.
Est-ce qu'il y a des tentations même, en ayant l'impression qu'on est incapable, d'être malgré tout attiré, intrigué ou...
Ah bah fasciné oui, mais attiré pour le faire moi-même non, parce que ça vaut pas le coup, quoi. Il y a des œuvres magnifiques, extraordinaires, bien plus intéressantes que ce que je serais susceptible d'écrire. Non, je pense que l'écriture, la création musicale, vous l'avez en vous, vous ne l'avez pas. Hein. Bon, après on peut apprendre les méthodes, les règles pour écrire une fugue, écrire un... Il y a des choses, la structure, la grammaire de l'écriture, elle peut s'apprendre. Mais après, l'inspiration, vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Moi, je ne l'ai pas, c'est clair. Donc, je préfère.
Et toujours dans des domaines à part, on parlait de Barenboim. Et puis, il y a une grandissime pianiste, mais aussi chef. Est-ce que la direction, c'est quelque chose qui vous intrigue ou pas du tout aussi? Est-ce que la réponse sera rapide également?
Est-ce que, par intrigué, vous voulez dire attiré ou...
Par exemple.
pour l'instant, non, ce n'est pas une urgence. Non, peut-être un jour, mais...
Vous êtes moins radical, là.
Oui, je suis moins radicale, mais pas maintenant. Pas pour l'instant. C'est un peu pareil, c'est-à-dire que j'ai la chance de rencontrer des grands chefs, donc je préfère jouer avec les grands chefs que je peux rencontrer, avec qui je peux jouer, voilà, dans un premier temps. Mais bon, ça c'est plus ouvert.
Écoutez, bah merci de nous avoir reçus chez vous, à l'Athénée.
Merci beaucoup, j'aime bien vous entendre dire ça. Merci à vous.
Merci.
www.cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.